And so, the third celestial sphere in proximity to the sun entered a new millennium. 6 billion souls inhabiting 266 nations. Their resentment and hopelessness proclaimed in 7,000 distinct dialects. A planet in total disarray.
One New York City police officer on trial for killing Amadou Diallo was found not guilty on all charges. The officers admit they fired 41 shots at Diallo because they thought his wallet was a deadly weapon.
Anarchy.
The slaughter of ethnic Albanians by Serbs continues in Kosovo.
Society without government.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of 8-year-old Ilian Gonzalez to his father.
Anarchy.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
Society without law.
In
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel pour une nouvelle émission des Périphériques que vous parle. Lors de cette émission, nous allons poursuivre le cycle d'émissions justement consacré aux discriminations touchant les femmes issues de l'immigration et à l'égalité hommes-femmes. Au programme de cette émission en trois temps, nous vous proposons, dans un premier temps, une rencontre avec de jeunes stagiaires en travail social du centre social Balzac, de la cité Balzac à Vitry-sur-Seine. Il s'agira d'échanges avec deux stagiaires concernant le travail social et le diagnostic des cas de discrimination. Ensuite, vous pourrez écouter les témoignages de Timba, un jeune, dans le cadre d'une rencontre avec l'antenne de solidarité du 1 rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement de Paris à propos de la discrimination à l'embauche. Enfin, en dernière partie d'émission, vous pourrez entendre des échanges de la rédaction, notamment Yovan Gilles et Damien Travalé, à propos de l'émergence ces dernières années d'une politique de lutte contre les discriminations, ses postulats et ses conséquences au plan social, politique et culturel. Donc, nous vous proposons d'ores et déjà d'écouter Valérie et Andrea du Centre Social Balzac à Vitry-sur-Seine. Je suis avec Andrea et Valérie. Donc, tous deux, vous travaillez actuellement à titre de stagiaire. Et pour vous, Valérie, je ne sais pas, c'est quel statut actuellement ? Vous êtes de la Réunion. Vous êtes de la Réunion,
oui.
De l'île de la Réunion. Donc, nous sommes au Centre Social Balzac. Donc une cité située à Vitry-sur-Seine, aux Ardoines. D'ailleurs, une cité actuellement en démolition, puisqu'il va y avoir une réaffectation du logement sur Vitry-sur-Seine, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a un démantèlement progressif de toute la cité Balzac, d'ailleurs, qui date des années 60. Qui date des années 60. Donc, je peux vous demander un petit peu ce que vous faites au centre social où nous sommes là, actuellement, Andrea ?
Moi, j'étais en stage pour de l'animation. J'organisais un peu des activités. Je les mettais en place et j'accueillais aussi, par la même occasion, des gens pour les aider dans leurs démarches administratives.
D'accord. Voilà. Et essentiellement des gens donc,
du
centre, qui sont donc originaires de la cité.
De tous les pays, il y avait tout.
D'accord. Et vous, Valérie ?
Donc moi, je suis actuellement en stage au Centre Social Balzac. Je fais un stage de 3 mois, puisque je viens de La Réunion. Donc dans le cadre de ma formation à l'IATS, formation assistante de service social. Donc j'ai été amenée à effectuer mon stage ici.
D'accord. Alors on est là pour évoquer la question des discriminations, plus spécifiquement les discriminations touchant les femmes, issues de l'immigration, aussi de l'égalité homme-femme. Alors bien évidemment, lorsqu'on évoque les discriminations aujourd'hui, on a différents types de discriminations. Bon, les discriminations raciales sont celles qui ont le plus d'écho aujourd'hui et celles qui sont à la fois les plus criantes et en même temps celles qui choquent le plus. Mais on a également aussi des discriminations à l'embauche,
tout à fait.
Avec des explications souvent qui sont au-delà de l'origine des personnes victimes de discrimination. On a des discriminations à l'école, on a des discriminations de toutes sortes, hein. On peut même ranger dans le cas des discriminations, effectivement, discrimination avec manifestation de signes d'appartenance religieuse dont on a parlé ces derniers mois. Parmi les personnes avec lesquelles vous avez affaire aujourd'hui sur ce centre social, Quelles sont les discriminations déjà qui vous parlent le plus, qui vous semblent les plus problématiques aujourd'hui ?
Les plus problématiques, en fait, c'est pour l'emploi, la recherche d'emploi des personnes. Pour certaines personnes, ça dure depuis très longtemps et ça évolue pas trop la situation.
Ouais.
Malgré leurs nombreux efforts qu'ils font, mais ça évolue pas.
Pour rejoindre un peu Andrea, c'est sûr que, surtout ici, dans le quartier de Balzac, où il y a une très grande mixité sociale, enfin mixité sociale, plutôt mixité ethnique, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine différente qui vivent ici, souvent des immigrés. Et donc, par rapport à ça, ils ont certaines difficultés, notamment administratives. Donc, pour tout ce qui est démarches, etc., ils sont un peu mis à l'écart ou ils n'ont pas beaucoup d'avantages comparés aux autres. Donc, souvent, ils viennent au centre ici pour qu'on les aide dans tout ce qui est démarches. Et c'est sûr que ça peut entraîner des difficultés par rapport à l'emploi, mais aussi par rapport au quotidien, la vie de tous les jours.
Et vous pensez que ces discriminations concernant l'emploi sont liées directement à l'origine des personnes ?
Pour la plupart du temps, c'est ça. Et même parfois, quand ils demandent les photos, au moment de la demande d'emploi, ça, je trouve pas ça trop normal. Quoi.
Ouais.
De demander les photos, c'est plutôt peut-être les diplômes, le parcours de la personne, mais les photos, je vois pas qu'est-ce que c'est utile. Je vois pas pourquoi c'est utile.
D'accord, ouais, ouais. Parce que là, du point de vue de la photographie, effectivement, on pourrait dire aussi que dans bon nombre d'entreprises, indépendamment de la couleur de peau, il existe des logiques qui, en général, qui disent jamais leur nom, qui sont jamais avouées et avouables comme telles, de casting, dirons-nous. C'est-à-dire, on a besoin, par exemple, d'une hôtesse qui est éventuellement une plastique relativement saillante ou des choses comme ça.
Ou lorsqu'on regarde d'où la personne vient pour ensuite l'employer ou non, c'est-à-dire on peut souvent, quand on voit quelqu'un issu de Balzac, dire « Ah ben, comme c'est quelqu'un de Balzac, on laisse un peu de côté
ouais. »
Ou regarder le nom de famille, quand on voit que c'est un nom un peu exotique, qui vient d'ailleurs, on préfère avoir des noms courants.
Et à votre avis, ces personnes... à votre sens, qui sont discriminées, elles le sont à cause de leur origine ou alors, c'est-à-dire pour des considérations de type racial, ou alors elles le sont parce que par rapport à leur origine, on estime qu'éventuellement ce ne seront pas des personnes ayant la maîtrise de la langue, donc compétentes pour l'emploi auquel elles postulent, à votre avis. Et peut-être que les deux sont à la fois scumées aussi.
Oui,
hein.
Voilà. C'est sûr que par rapport à leurs origines, ça peut entraîner des difficultés. Donc, comme on l'avait dit précédemment, par rapport aux démarches administratives, à la langue, etc., qui peut entraîner des difficultés. Mais après, souvent, je pense qu'aussi, c'est plus... je ne sais pas si du type racial, mais je veux dire...
Moi, je pense que c'est l'image qui se fait des patrons, des personnes étrangères. Ils se font une certaine image qui n'est pas forcément vraie, quoi. Parce qu'ils disent une personne qui vient de l'étranger, j'aurais plus de difficultés avec cette personne, alors qu'une soi-disant française, ce sera plus facile, moins de difficultés pour le patron, quoi.
D'accord.
Ouais. Pour moi, c'est
un point de vue... On s'arrête souvent aux représentations parce que ici, en stage, j'ai déjà vu des personnes d'origine autre que française et qui ont beaucoup de diplômes, mais qui pour autant n'ont pas d'emploi.
Ouais, je crois qu'on avait une discussion avec une responsable de l'AFDAM, qui est une association qui s'occupe des migrants, et justement qui disait qu'il y avait quelque chose d'absolument terrible en France et dans d'autres pays européens, à savoir que le parcours du migrant n'était jamais valorisé en tant que tel, que forcément la personne qui immigrait dans un pays et qui avait eu un emploi par exemple très très qualifié dans son pays se retrouvait dans une situation où on ne faisait que des offres en travail déqualifié, comme si ça allait de soi, alors que justement il y a des efforts, elle le dit aujourd'hui, de valoriser justement le parcours du migrant de manière à ce que ce parcours-là ne soit pas vécu comme une espèce de déclassement automatique, quoi.
Exactement. Pour un exemple, moi je prépare actuellement mon diplôme d'état d'assistant social et social. Et dans le cadre de mon stage ici, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait les mêmes études, mais en Algérie. Elle a préparé son diplôme d'état d'assistante de service social et elle voulait faire adapter le diplôme à la France. Et on lui proposait qu'un niveau Bac plus 1. Donc c'est là où on voit vraiment que c'est la même formation qui dure 3 ans. C'est un diplôme d'état avec à peu près les mêmes modules, les mêmes cours, les mêmes stages. Et voilà. Donc on se demande, y a des personnes qui font les mêmes choses que nous, qui se donnent les moyens, et ce sont les mêmes études, quand ils changent de pays, c'est pas le même niveau.
Ouais.
Et voilà, et là on commence à se poser des questions, à se dire, étant déjà en formation, et voyant là quelqu'un qui a réussi, qui a son diplôme d'état, donc voilà.
Et vous, Andrea, on pense.
Moi, j'ai pas d'exemple qui me vienne, mais qu'est-ce qu'elle dit, Valérie, c'est vrai. C'est comme si tout ce qu'ils avaient fait, ça servait à rien et c'est dévalorisé en fait. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait, André, c'est dévalorisé.
Et alors, donc, lorsque vous avez, par exemple, à l'espace, au centre, à faire des personnes, donc vous essayez en quelque sorte d'évaluer avec elles par rapport à leurs demandes. Si véritablement il y a un cas de discrimination avérée, par exemple à l'emploi, vous faites un travail de diagnostic de leur situation avec elles, déjà ?
Moi, personnellement, je ne me suis pas trop occupée de ça, mais j'ai toujours été ouverte aux discussions pour aider, mais voilà.
Oui, parce que vous êtes toute jeune, vous commencez.
Oui, voilà.
Alors, comme cas... ici, je sais que le centre travaille avec la HALD. Après, moi, personnellement, je n'ai pas rencontré vraiment de cas qui auraient pu interpeller la HALD. Mais sinon, je sais qu'ils ont un partenariat avec et que,
ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le centre peut intervenir éventuellement en alertant la HALD sur un cas de discrimination avérée.
C'est sûr que jusqu'à maintenant, le centre n'a pas trop développé... cette réflexion autour de la discrimination n'a pas trop fait de travail là-dessus puisque ça ne faisait pas partie de son projet social. Et actuellement, on diagnostique qu'ils comptent peut-être intégrer la lutte contre les discriminations dans leur projet. Donc ça veut dire plus d'activités, plus de moyens. Et...
Voilà. Oui, parce que c'est la chose la plus difficile d'ailleurs à rendre évidente une discrimination. Il faut des preuves. Voilà. Et au contraire, la discrimination en général se joue plutôt dans... le double langage, dans des choses qui ne sont pas dites. Donc, de là la difficulté, il y aura toujours une argumentation. Par exemple, l'argumentation la plus connue sont des patrons qui peuvent dire « Écoutez, moi, voilà, bon, je suis contraint, en quelque sorte, d'être hyper sélectif dans le choix de mon personnel parce que mes clients ne comprendraient pas qu'ils aient pour interlocuteur une personne de couleur, une personne, etc. » C'est des chefs d'entreprise qui ont fait de semblables confessions, sinon c'est très difficile
d'obtenir la vérité.
Et sur un autre registre, en ce qui concerne l'égalité homme-femme, qu'est-ce que vous constatez, vous qui avez quand même affaire à des publics mixtes, puisqu'il y a beaucoup de communautés, donc je veux dire, les rapports homme-femme au sein des communautés ne sont pas les mêmes, hein, donc...
On va dire que ça a évolué dans le bon sens comparé aux autres années, mais il reste quelques différences à régler. Certes, dans le monde du travail, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs.
Oui, c'est sûr que comme dit Andrea, ça a évolué, la femme fait petit à petit sa place, mais on voit encore des inégalités. Ça, tout le monde l'a déjà entendu, à travail égal... deux personnes de sexe différent ne touchent pas la même paye. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure, des choses changent, évoluent, mais chaque chose en son temps. Mais ça prend un petit peu trop de temps.
Ça prend un petit peu trop de temps. Là, il est clair que, ouais. Effectivement, la principale discrimination, c'est quand même la discrimination dont personne ne s'occupe, discrimination salariale entre les hommes et les femmes. Mm. Donc, on n'a jamais compris pourquoi, mais ça.
Ça existe.
Ça existe, c'est la plus évidente, mais on n'y touche pas. Enfin, surtout en ce moment où, bien évidemment, dans la crise qu'on connaît, augmenter les salaires déjà en période de relative prospérité, c'était vécu comme en rajouter dans la dette publique. Et maintenant qu'il y a une crise avérée, avec le plafonnement des salaires, c'est pas maintenant qu'on va y remédier. Donc, Et sur les questions de logement, comment vous réagissez-vous sur les discriminations au logement par exemple, sur la manière dont s'opère la réaffectation des logements de la cité Balzac, vous pensez qu'il va y avoir aussi des phénomènes de regroupement avec, disons, des catégories de population qui sempiternellement se retrouveraient ensemble, ou ça va dans le sens de beaucoup plus de mixité, etc., etc.
Ben, en général, les gens de Balzac, on les place, ils sont relogés dans des nouveaux appartements. Je connais quelques personnes qui étaient à Balzac, qui sont relogées dans des nouveaux appartements, mais après le reste, je ne sais pas si c'est tous, ils sont tous regroupés, mais je ne sais pas du tout.
Étant là que depuis 2 mois, je ne pourrais peut-être pas te dire plus qu'Andrea, mais je sais que les personnes qui ont été délogées, ils ont été dispatchées sur d'autres quartiers de Vitry. Donc après. Je ne sais pas quel type de population va venir reprendre la place ici, s'il y a un quota spécifique aux anciens.
Ici, ça ne va pas être construit.
Si.
Ah, ça va être construit, ouais. D'accord. Oui. D'accord, donc c'est un relogement provisoire.
Non.
Non,
je pense non. C'est un relogement définitif, et là, c'est des nouvelles personnes qui vont venir.
D'accord.
Ce ne sera pas des anciens.
D'accord.
Des nouvelles personnes qui vont venir. Ce sera des petits pavillons, je crois. Je ne suis pas sûre, mais ça va être refait. Tout.
Et même des personnes qui avaient habité ici depuis le début, si elles souhaitaient revenir, on ne leur permettrait pas.
Comme je vous le dis, je ne sais pas s'il y a un quota spécifique pour les anciens habitants de Balzac, si ça va être... Je ne pourrais pas vous dire davantage là-dessus.
Et vous, dans le cadre du travail, de votre travail, de votre formation, vous ressentez directement, personnellement, ces discriminations ?
Pas pour l'instant, en fait.
Ouais.
Parce que comme je n'ai pas vraiment intégré le monde professionnel, je n'ai pas eu encore affaire à ça.
Dans le cadre de ma formation, rencontrer des discriminations, non. Je n'ai pas encore eu le droit. Heureusement. C'est sûr, puisque dans le milieu où on est, étant étudiant, pour après être futur travailleur social, ça serait un peu paradoxal d'être discriminé dans la mesure où c'est nos futures missions, lutter contre la discrimination, pour un vivre ensemble meilleur. Donc après, si... ça venait à se faire. Je pense que plus la jeunesse est sensibilisée, plus on a les armes après pour riposter.
Et vous pensez qu'il y a une résistance ? Par exemple, on dit aujourd'hui effectivement que c'est de plus en plus individualiste, que les solidarités s'affaissent. Vous pensez qu'il y a encore une force de la solidarité, par exemple dans un quartier comme celui-ci, entre les personnes, et une capacité aussi de s'organiser pour résister à des situations qu'elles jugent injustes ?
C'est
ça
sûr.
Se perd.
Je pense que ça se perd de plus en plus, malheureusement, parce que après c'est la société qui fait ça, c'est le mode de vie. Après, dans des quartiers comme Balzac, il y a quand même une solidarité qui continue. C'est quand même un quartier qui existe depuis longtemps, qui a traversé des choses ensemble. Et la preuve en est, même si les habitants étaient relogés, ces personnes reviennent toujours au centre, parce que pour eux c'est un point de repère, parce qu'ils viennent retrouver leurs voisines, leurs amis. Et malgré tout ce qui s'est passé, malgré la mauvaise image que Balzac a, qui n'est souvent pas justifiée, mais ils continuent quand même à venir, ils aiment leur quartier.
Tu as une mauvaise image qui était liée quoi, à la délinquance à...
Voilà, tous les préjugés, toutes les représentations que ben, souvent les personnes ont quand on parle ben, déjà des cités, et ben, particulièrement Balzac par rapport aux faits divers qui se sont passés, etc. C'est sûr que quand on parle de Balzac, on a tout de suite une mauvaise image, et qui qui, comme je vous l'ai dit, pourtant pas justifié. Mmh. Et malgré tout, les personnes aiment leur quartier, viennent, il y a quand même une solidarité, il y a un vivre ensemble, malgré, je vous disais, les différences d'origine, etc. Mmh. Ils ont appris à vivre ensemble et je pense que s'ils sont accompagnés et s'il y a des gens pour pousser des personnes... on peut leur donner les moyens de riposter.
Et entre les différentes communautés, ou disons personnes d'origine affiliée, les rapports se passent bien, à votre sens ? Il y a des tensions ? Au contraire, il y a une harmonisation qui se fait sans problème ?
La population de Vitry, franchement, c'est mélangé. Tout le monde s'aide. Ça pose pas de problème, la neutralité des personnes.
Après, c'est sûr qu'il y a je pense qu'il y a eu des conflits, il y en aura toujours. C'est ce qui se passe des fois quand il y a de vivre comme ça dans les cités, les uns sur les autres. C'est sûr que, comme partout, on peut voir certains conflits, mais c'est comme dans tous les quartiers, comme partout. Après, étant là de passage, je ne pourrais pas dire vraiment si... il y a l'harmonie, s'ils vivent bien ensemble, ça serait un peu utopique de dire ça, mais c'est sûr que comme dans tous les grands ensembles, comme partout, il y a des conflits, mais il y a quand même un vivre ensemble.
Oui, non, parce que j'ai rencontré des personnes, justement, dans les quartiers, qui m'ont dit « Ah, ben, on parle aujourd'hui du manque de solidarité, mais nous, on est solidaires, on est là. » Alors peut-être aussi, c'est qu'effectivement, des gens qui sont dans les difficultés économiques ont plus de raisons d'être solidaires, parce que pour eux, c'est vital d'être solidaires. C'est aussi... c'est ce qu'ont pas bien non plus compris certains politiques lorsqu'ils parlent de communautarisme. C'est-à-dire, tant on arrive dans un pays, on est fragilisé. Donc on se rassemble, c'est pas qu'on se renferme, c'est qu'on a besoin des uns des autres pour faire face... aux difficultés qui sont liées au fait d'être...
On peut aussi créer du lien social. C'est très important pour les personnes qui viennent de l'étranger pour un peu s'adapter à son environnement. Et voir des nouvelles personnes, c'est très important pour le déroulement de la suite.
Et vous, Andrea, vous êtes née ici ?
Oui, à Vitry même.
À Vitry même, ouais. D'accord. Et vos parents aussi ?
Non, Martinique.
En Martinique, ah bah oui.
Voilà. Après la France.
Ah oui, oui. Vous avez d'autres choses à rajouter, si vous voulez ?
En espérant que la discrimination va diminuer, va s'estomper, pour plus qu'il en ait. Parce que, franchement, ça ne devrait pas exister, toute cette différence entre les populations.
Voilà. Ça prendra le temps qu'il faudra, et après, c'est en... C'est en parlant, c'est en sensibilisant et en surtout, pour moi, en donnant les moyens aux personnes pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils conscientisent ce que c'est que la discrimination et pour tendre à mieux vivre ensemble.
Et c'est pour ça qu'il faut changer certainement aussi les représentations. Ça, c'est la chose fondamentale parce que tant que les représentations restent ce qu'elles sont, tout le travail, par exemple, de Thuram dans les écoles, en disant, les gens... même si les élèves s'entendent bien, ils ont une perception des uns des autres qui est médiatisée encore par la race, même si pour le meilleur et pour le pire, en même temps on valorise ou on dévalorise, c'est le même phénomène de stigmatisation où l'individu est rapporté et confiné donc à une appartenance qui simplifie ce qu'il est, quoi, qui simplifie ce qu'il est, qui voilà.
Après, c'est une certaine peur de l'inconnu, peur d'aller voir au-delà de ce qu'on veut pas voir.
Alors Valérie, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes deux.
Vous venez d'écouter Valérie et Andrea, deux jeunes stagiaires du centre social Balzac à Vitry-sur-Seine. Vous allez maintenant pouvoir entendre Fatima, directrice de l'antenne de solidarité du 1 rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement de Paris, ainsi qu'un jeune usager de cet espace social. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 Bande FM, pour l'émission des périphériques vous parle, dans le cadre d'un cycle consacré aux discriminations touchant les femmes issues de l'immigration et l'égalité homme-femme. Bonjour Fatima.
Bonjour.
Tu es responsable, tu es coordinatrice.
Responsable.
Oui, j'avais peur de dire une bêtise, oui, finalement, non. de l'antenne Solidarité de rue de la Solidarité.
Ben, c'est
voilà, donc il y a plusieurs antennes sur Paris.
Il y en a une vingtaine à peu près sur Paris, répartis dans différents arrondissements.
Est-ce qu'on peut résumer un petit peu l'action sociale de cette antenne, en règle générale, en gros
C'est une structure qui s'adresse aux jeunes de 10 à 25 ans, structure de proximité, équipement qui dépend de la ville de Paris. Et donc on est un lieu d'information, d'accueil et d'orientation en fonction des besoins et demandes du jeune, s'il y a une spécificité particulière, parce qu'on est dans l'accueil et l'écoute de manière générale. On est là pour répondre à des besoins d'élaboration de CV, de lettres de motivation, d'accompagnement scolaire pour les collégiens, et puis de mettre en place des animations d'activités culturelles et pédagogiques très importantes.
D'accord. Et donc je suis aussi avec Ousmane. Bonjour Ousmane. Donc vous fréquentez, vous, l'antenne Solidarité, d'accord.
Je vois très régulièrement.
Ouais.
On va dire de manière journalière, je vais souvent à l'antenne jeune. Parfois pour un suivi, parce que bon, j'ai... Moi, je suis toujours scolarisé, mais bon, j'ai souvent besoin de mettre à jour mon CV ou de ramener tel ou tel document. Donc, je vais à l'antenne jeune, comme ça, j'ai l'appui de Fatima et de ses collègues. Et voilà, si pour un certain suivi professionnel aussi, je les côtoie quotidiennement.
J'aimerais vous poser une question, Ousmane, parce que bon, on était sur avant d'engager cet entretien, j'évoquais la question des discriminations. Et pour vous, comment ça résonne ce mot aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez? Est-ce que vous pensez que c'est une question sociale grave, que c'est quelque chose de très présent, que c'est quelque chose, ou alors que ça a une valeur plus exceptionnelle? Parce que vous disiez que effectivement, c'était pour vous quelque chose de pas si évident que ça, quoi.
Bon, je disais que c'était pas si évident que ça dans la mesure où moi, professionnellement, j'ai pas trop été confronté. Mais bon, c'est vrai que c'est très important, je veux dire, c'est quand même grave de nos jours. Avec bon, déjà que. En plus, on habite un quartier où il y a quand même. C'est assez. Comment dire. C'est un assez grand melting pot, je veux dire, il y a de tout.
Ouais.
Et bon, malgré ça, c'est vrai que tous les jours, il y a toujours une preuve de. Pas moi la cible, hein, mais on a toujours des preuves de discrimination. Et ouais, c'est vrai que c'est assez grave, franchement.
Notamment plus particulièrement à l'embauche, vous pensez, non?
Ben, à l'embauche, j'aurais un peu du mal à me prononcer parce que moi, personnellement, comme je vous ai dit, au niveau professionnel, j'ai pas trop été confronté.
Ouais.
Plus quelquefois par rapport à mon adresse.
Ouais. Ben, je parle de l'embauche, bien évidemment, faut vraiment nuancer. C'est-à-dire l'embauche par rapport lorsque les jeunes postulent à certains postes qui ne sont pas en rapport avec justement le travail des qualifiés.
C'est pas.
Et donc une discrimination par rapport à l'adresse.
Oui, ça, j'ai déjà été confronté une fois.
Ouais. D'accord.
Oui.
Pourtant, on est dans Paris.
Non, c'est comme le 19e arrondissement, c'est pas. J'ai déjà eu des dires de certaines personnes qui venaient d'autre part, ou des remarques des personnes qui travaillaient dans la mairie d'autres arrondissements, on va dire, de plus huppé que le 19e.
Ouais.
J'ai déjà eu des retours assez. Pour certains, le 19e, c'est carrément. C'est pareil que la banlieue,
Ah ouais, à ce point. En général, on disait que la discriminance se faisait plutôt au fait de Paris intramuros, et pas extramuros, parce que bien évidemment, si on parle de Louvciennes...
Oui, bien sûr.
Il y a un découpage géographique qui est plutôt, disons, banlieue, banlieue Est, banlieue Ouest, hein, qui se fait... Et à l'antenne de Solidarité, Fatima, est-ce qu'il y a souvent des jeunes qui passent et qui se confient sur... par rapport à certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer, qui seraient de l'ordre d'un sentiment d'être discriminé d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas forcément interprété comme tel?
Non, pas récemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 ans. Non, là, je crois qu'on est rentré dans un manque de débouchés du fait de la crise financière qui s'est abattue d'abord aux États-Unis et on en a les répercussions. Là, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a absolument pas de débouché dans la demande d'insertion des jeunes.
Mmh.
Je constate qu'ils sont de plus en plus nombreux à passer pour nous demander de les aider dans leurs recherches. Et je dirais que la réponse est difficile.
Oui.
Alors peut-être que ça a occulté la discrimination.
Oui. Oui, c'était plutôt vécu comme une situation de pénurie d'emploi généralisée, puis une situation de crise.
Oui, parce qu'on a beaucoup de jeunes peu qualifiés. Donc moi, j'essaie tant bien que mal de les pousser à reprendre une formation professionnelle. Mmh. Parce que quand je constate que les sans diplômés ne parviennent pas vraiment à trouver des petits jobs, en particulier les garçons. Mmh. Donc ça me pose question et je me dis qu'il faut les soutenir dans leur démarche de formation, dans leur parcours.
En particulier les garçons, plus les garçons que les femmes.
Oui, c'est ce que je ressens cette année, c'est ce manque de débouchés professionnels pour ces garçons dans des petits jobs qu'ils pouvaient peut-être autrefois obtenir plus récemment, voilà ce que je ressens. Maintenant, c'est un ressenti. Alors, comme voilà, donc la discrimination n'est plus une question à l'ordre du jour par rapport à notre contexte économique défavorable.
Et tu disais qu'il y a eu des tentatives pour l'antenne de solidarité à un moment donné de créer des ateliers là-dessus, non ?
On avait fait un atelier il y a 2 ans avec l'association Atlan sur la discrimination et les freins à l'emploi, donc au premier emploi surtout, et au stage de ceux qui recherchent des stages sur le terrain professionnel, parce qu'ils sont en alternance. Mmh. Et apparemment, s'ils n'ont pas de stage, ils peuvent se retrouver à être exclus de l'organisme de formation, du CFA.
Donc toi, pour toi, la question des discriminations, elle vient bien après des questions qui concernent aujourd'hui les difficultés d'accès au marché du travail.
Oui, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle après.
Ou alors peut-être qu'il y a aussi une difficulté de la part des jeunes à penser que ça les frapperait directement, non, Ousmane ?
C'est-à-dire
qu'en même temps, on peut se dire on vit dans un monde dur. Donc oui. Ce qui nous arrive finalement, c'est parce qu'enfin, on vit dans un monde qui est plus dur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelque temps. Pour trouver un emploi, pour avoir des rémunérations à hauteur de la qualification requise. Donc on peut se dire que vu qu'on est dans un monde qui est devenu un peu plus dur qu'il ne l'était, ce qui vous arrive peut être perçu comme finalement normal, puisque le monde est ce qu'il est aujourd'hui avec les difficultés qu'on rencontre. Sans que ce soit forcément derrière, que derrière ça, il y a des mécanismes aggravants qui tiennent lieu justement d'un certain nombre de pratiques discriminatoires. C'est une question que je pose en même temps.
Non, je pense pas que les gens le perçoivent comme ça, non. Je pense que... la discrimination, si vous voulez, c'est quand on vient d'être... Quand on n'a pas été accepté pour un poste qu'on convoitait, bon, on n'a pas. C'est sûr que la discrimination est dans un coin de notre tête. Enfin, je parle pour les jeunes issus de l'immigration. Mmh. Mais bon, après, je pense faut pas banaliser. Et puis bon, je pense plus que les jeunes aujourd'hui le banalisent. Mmh. Il y a quelques temps, c'est vrai que les jeunes le banalisaient, mais aujourd'hui, je pense pas. Mmh.
Je pense pas que ce soit que les jeunes issus de l'immigration qui ressentiraient la discrimination, parce que moi, l'exemple que je donnais tout à l'heure, j'en avais 2 qui étaient d'origine, comme on dirait aujourd'hui, de souche, français de souche, c'est ce qu'on entend. Je crois qu'on se perd dans les classifications, et c'est ça qui devient très compliqué. Mais non, les 2 que je citais étaient français de souche, celui qui avait des tatouages et celui qui était en surcharge pondérale.
Ouais.
Je crois aussi que ce qui est lié, c'est la faible qualification de ces jeunes qui pouvaient dans le passé accéder à un emploi plus facilement. Et aujourd'hui, l'employeur prendra plutôt un diplômé et on va déqualifier celui qui est plus...
mieux qualifié, je veux
dire. Oui, il va se tourner sur le plus qualifié parce que... il va être sur le côté pragmatique et peut-être que là, il y a une forme de discrimination pour ceux qui ne sont pas diplômés. Peut-être parce qu'il n'y a plus d'emploi pour du fait des délocalisations, je ne sais pas. Après.
Parce que j'avais un exemple, par exemple, parce que tu dis discrimination aussi, il y a des discriminations qui peuvent être interprétées comme discrimination positive aussi. Donc, quand on a fait l'entretien avec les femmes maliennes, là, l'association des femmes maliennes de Montreuil, il y a certaines qui disaient, notamment des jeunes, qui disaient qu'elles ressentent une orientation en tant que femme malienne africaine dans les circuits scolaires, une orientation systématique vers des professions qui sont le médico-social. lire l'assistance sociale, aux personnes âgées, etc., que là, on les oriente systématiquement. Donc elle suspectait qu'il y avait quelque part un certain nombre de catégories de population qu'on mettait dans des... on orientait au niveau scolaire vers des filières qui leur seraient prédestinées, presque. Donc c'est intéressant.
Moi, personnellement, j'ai du mal à concevoir... J'aime pas trop le terme de discrimination positive, en fait.
Ouais, non plus, pas trop.
C'est deux termes qui vont pas dans la même... Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas. J'aime pas trop ce terme. Mais bon, si, comme vous dites, après, c'est... si une certaine population est toujours orientée vers la même... vers le même métier ou la même branche professionnelle, bon, c'est qu'il y a une raison, après, bon, je sais pas.
Ouais. Alors, on ne sait pas si c'est une volonté fichée ou une volonté... Bon, ça, c'est toujours le problème, hein, de... Mais...
Non, ça, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être construit, maintenant, par des... Comment dire... le fait qu'il y a des populations vieillissantes et que ce sont des métiers qui auraient tendance à se développer. Mmh. Métiers d'avenir, dira-t-on. Donc, par rapport à des jeunes qui n'ont pas eu la perspective de faire des études, ben on les orienterait vers ces filières professionnelles parce qu'il y aurait une offre. Mmh. Et je crois que c'est comme ça que les dispositifs sont mis en place.
Une question que je voudrais avoir, c'est par exemple, t'en as comme ça une antenne de solidarité. Est-ce qu'il y a à la fois, bon, il y a des usagers donc, qui sont des jeunes usagers de l'antenne, ou est-ce qu'il arrive souvent que tu as un rôle aussi, presque quelque chose des confidences hasardées, quelque chose de plus intime, ou des jeunes qui sont un petit peu comme ça dans le dénuement, un peu désorientés, viennent se confier, viennent véritablement trouver un secours qui serait autre, ou en tout cas, du moins, un soin qui serait autre simplement que l'orientation ou de l'information. Enfin, ça, c'est une question plus personnelle sur... la manière dont tu vis sur un quartier, ouais. Sur un quartier populaire
sur
aujourd'hui.
Sur la question d'intimité, non, puisque le lieu ne. Comment je pourrais expliquer ça ne préfigure pas l'intimité du fait qu'on est tous sur l'espace accueil. Dès qu'on rentre, il y a une configuration et l'équipe est présente dès cet espace-là. Donc, pour pouvoir avoir de l'intimité, il faudrait un endroit plus confidentiel. Quand il y a des questions d'ordre intime, ils me demandent de sortir pour qu'on puisse se retrouver en tête-à-tête, parce qu'on ne parle pas en public non plus. Mmh. Après, c'est plutôt rare, ce sera plutôt sur des orientations, sur la thématique santé, le numéro de téléphone d'un planning familial, ou parce que j'ai un problème de santé, on l'accompagne. Mmh. On accompagne le jeune ou la jeune dans ces démarches-là. Aussi dans l'urgence de l'hébergement. Non, ce qui revient beaucoup plus cette année, c'est l'insertion. Mmh. Beaucoup de jeunes sont, comment dire, dépités de ne pas pouvoir trouver un emploi assez rapidement. Mmh. Ça, c'est le retour que j'ai ressenti cette année. Mmh. À la limite, dans le passé, ils avaient des petits CDD... Ils arrivaient à trouver les missions, et là, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des missions possibles. Donc, ils pouvaient rebondir.
Aussi brutalement que ça depuis.
Ah ouais.
Depuis le crack.
Bon, plus avant, je trouve.
Ouais.
Je pense pas que le crack a une répercussion sur tous les. Toutes les personnes. Ouais, bon, je pense que c'était déjà arrivé. Oui, bon, ils ont pensé. Il fallait de l'argent, donc la meilleure manière d'avoir de l'argent, c'est de travailler. Mais bon, je pense qu'ils étaient déjà dans l'état d'esprit de trouver un travail bien avant le crack. Enfin, c'est sûr que le crack n'a pas arrangé les choses. Mmh. Mais peut-être de la peur, plus de peur qui s'est dégagée, peut-être. Mmh. Donc ils ont dit qu'il y avait moins de travail, moins passe. D'argent, donc il y avait beaucoup de sociétés qui ont dû procéder à des licenciements. Mmh. Donc voilà, il y avait de la peur qui s'est dégagée et tout le monde voulait se mettre à l'abri.
Mais est-ce que vous avez le sentiment, vous, par exemple, qui est encore scolarisé, que, par exemple, il y a aujourd'hui les élèves prennent la décision, par exemple, je ne sais pas, à la fois de poursuivre des études, continuer leurs études, faire le bac déjà, et en même temps, travailleraient de plus en plus tôt, quoi. Faisant des petits boulots, est-ce que c'est quelque chose qui se développe ou pas, selon vous ?
Moi, je suis d'une époque, enfin, je suis d'une génération, enfin, je suis du moins dans le quartier, Les personnes de ma génération, c'est la majorité, ils ont arrêté l'école très tôt et pour pouvoir travailler. Quoi. Plutôt parce que, bon, comme on dit, il fallait de l'argent et bon, voilà, ils n'étaient pas dans l'optique de travailler et d'aller à l'école en parallèle en fait.
Ouais.
C'était deux trajectoires carrément différentes pour eux. Moi, bon, personnellement, j'avais envie de continuer les cours et j'avais besoin d'argent, donc ça va, j'arrive à trouver du boulot malgré que je sois scolarisé et pendant ce temps, je m'en sors bien. Mais ouais, au niveau des autres jeunes, c'est, comme je vous ai dit, je pense pas qu'ils ont l'état d'esprit pour... encore une fois, je parle des gens de ma génération. Ils ont pas été dans l'état d'esprit de continuer l'école et travailler. Mmh. C'est soit l'un, soit l'autre, parce que bon, après... Une fois qu'ils se disent qu'il y a l'argent qui arrive, tout va bien pour eux.
Mais c'est par rapport aussi à un environnement familial qui fait pression, selon vous, parce que les revenus à la maison sont faibles, les parents sont faibles, et donc il faut trouver des compléments très rapidement, non?
Ouais, voilà, ouais, ça c'est une bonne raison.
Les parents sont très présents dans la dynamique de recherche d'emploi de leurs enfants, en âge de travailler. Ici, voilà. On constate. Certains passent nous voir pour savoir où on est.
Jusqu'à éventuellement encourager le fait de cesser l'école assez rapidement, quoi, non?
Non, je crois pas. Non.
Non.
Quand le jeune prend la décision de rester.
Oui, oui. Non, je parle dans un certain environnement social. Je parle pas du 6e arrondissement.
Non. On reste bien dans le quartier. Ouais. Non. Je pense que non. Les parents sont assez déçus quand le jeune prend la décision d'arrêter sa scolarité dès 16 ans. Sans rien en poche.
Et en fait, c'est ça qui fait le plus peur aux parents, c'est le manque de qualification en fait. Parce que bon, il y a toujours un jeune qui va dire bon, moi j'arrête l'école, t'inquiète pas maman, t'inquiète pas papa, je vais trouver du travail. Les parents, bon, même ceux qui n'ont pas toujours vécu ici, ils savent très bien que sans qualification, surtout de nos jours, c'est super difficile de trouver un travail. Au niveau des parents, non, jamais les parents n'envisagent de dire à leurs enfants t'arrêtes les cours et tu vas travailler. Ça, c'est plus une réflexion des jeunes directement. Ils disent bon, j'arrête l'école, il me faut de l'argent, j'y vais contre le gré des parents. Après, les parents font leur caractère, s'ils font, ça passe pas.
Vous venez d'entendre Fatima et Timba de l'antenne de solidarité du 1 rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement de Paris. Pour une dernière partie d'émission, vous allez maintenant entendre des échanges entre Damien Travahalé et Jovan Gilles de la rédaction des Périphériques vous parle à propos du sens des politiques de lutte contre les discriminations qui ont émergé ces dernières années.
Jusque dans les années 90, les discriminations, et notamment raciales, n'avaient pas le droit de citer dans l'espace public en France. Quand s'est opéré, quand a été créée la HALD, etc., donc, on a créé un espace de parole pour parler ou pour lutter contre les discriminations. Très rapidement, on est passé à une dénégation, c'est-à-dire un phénomène où, oui, on a affirmé que les discriminations existaient, mais on a dit « mais », quoi, justement. C'est-à-dire que certaines personnes qui se saisissent un peu de la question de discrimination, on va leur reprocher de se victimiser et d'être dans une sorte de concurrence des victimes, quoi, si tu veux. Donc, oui, il y a une acceptation, en tout cas un espace qui a été ouvert au sein de l'espace public pour parler de discrimination, mais il y a quand même toujours cette forme de dénégation, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre d'en parler, ou on l'accepte sans l'accepter, en fait, quoi.
Peut-être il y a déjà le premier volet, celui de la victimisation. Je pense qu'effectivement, on dit très bien le fait de créer une grille de lecture et donc de faire apparaître quelque chose qui existait mais qui ne faisait pas l'objet de législation ou de discriminant pour discriminer la discrimination. Ça a certainement changé des choses, notamment la victimisation que ça peut entraîner. Je me rappelle à Villeneuve-Saint-Georges, sur la discrimination au logement, on avait des discussions avec un groupe de femmes. Et là, il y avait effectivement une mise en équation qui était évidente de leur part. C'était deux Algériennes, femmes de 45, 50 ans. Il y avait une mise en équation pour elles, inévitable, entre leur attente d'un logement social, avec une demande qui n'aboutissait pas depuis 7 ou 8 ans, et la consonance maghrébine de leur nom. Pour elles, c'était évident qu'elles ne parvenaient pas à comprendre que
qu'il y ait des délais aussi longs, que leurs demandes n'aboutissent pas, et donc pour elles, la cause ultime qui rendait cette situation à leurs yeux intelligible, c'était effectivement qu'on les discriminait. Ce à quoi je disais que, curieusement, on a eu des regroupements familiaux dans des tissus urbains à Marseille, à Paris, qui ont été certainement abusifs. Il faudrait faire une étude pour savoir s'ils ont été prémédités ou pas de certaines catégories de population, d'origine africaine ou d'origine maghrébine. C'est un fait. Est-ce que c'est lié, par exemple, à la situation de travail déqualifié de ces populations, ou c'est lié à leur statut de primo-arrivant ou à leurs origines? Ça, il faudrait mener une enquête. C'est pas à moi, je suis pas spécialiste de ça pour pouvoir y répondre. Mais toujours est-il que pour elle, c'était, il y avait ça par rapport au logement. Sans quoi on peut objecter qu'on ne connaît pas de discrimination institutionnalisée et qu'à ce moment-là, il faudrait éventuellement avoir des gens qui examinent les demandes de logements sociaux qui seraient mal attentionnés ou qui eux-mêmes peut-être négligeraient de traiter comme il se doit certaines demandes. Ce à quoi ça serait effectivement une discrimination totalement empirique et invérifiable, du moins à moins de faire un audit dans les attributions de logements sociaux. Alors qu'il y a beaucoup de Français qui diront au contraire, aujourd'hui les logements sociaux, il y en a pour les étrangers et plus pour les Français. Donc ça aussi c'est une version antagoniste, tout aussi bidon ou bidonnée. Donc je crois qu'il y a, effectivement la côté victimisation qui est quand même quelque chose qui n'est pas propre à des gens qui seraient censés être des publics victimes de discrimination. La victimisation, on la connaît, hein. Je veux dire, on est effectivement dans une idéologie qui en général enfonce le clou de toutes sortes de victimisations, celle des guerres, celle de tout ce qu'on voudra. On a quand même des idéologies victimaires qu'il ne faut pas non plus minimiser. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que la discrimination n'est pas un fait social patent, avéré, qu'on diagnostique pour mieux justement le récriminer à son tour et le pénaliser, pour lui donner dans un cadre législatif, alors qu'on ne le faisait pas avant, et qu'avant on avait une situation, disons, de racisme, qui n'était pas porté à la conscience commune comme ça l'est peut l'être aujourd'hui. Je pense notamment aux actions depuis une vingtaine d'années d'SOS Racisme pour vérifier, montrer qu'à l'entrée des boîtes de nuit, on a une discrimination réelle de jeunes jugés indésirables par rapport à leur apparence physique, par rapport à leur insolvabilité présumée, etc. etc. Bon, jeunes des banlieues, casse-têtes, tout ce qu'on voudra. Donc voilà, je pense qu'il y a un point sur la victimisation qui n'est pas négligé. Après, sur le déni, effectivement, il y a une hésitation, notamment je l'ai vu à l'espace social, à l'espace Riquet, dans un atelier sociolinguistique, indépendamment aussi des difficultés aussi de certaines de ces femmes de toute génération, de tout âge, entre 20 et 60 ans, de s'exprimer par rapport à, disons, des obstacles linguistiques évidents, vu qu'elles sont en situation d'apprentissage du français. C'est vrai que les prises de parole étaient beaucoup plus difficiles. La prise de parole est beaucoup plus difficile pour chacune sur des points où certainement elles n'ont pas envie peut-être de se prononcer. Je veux dire, entre lorsqu'on on évoque les discriminations, par exemple sur le plan du sexisme, on a eu soit la volubilité de ces jeunes filles à l'espace Balzac, dans la cité Balzac à Vitry-sur-Seine, qui au contraire s'affirmaient comme jeunes femmes d'origine maghrébine, absolument émancipée, légale de l'homme, et souhaitant des rapports de couple sur un pied d'égalité de plein droit avec les hommes. On l'a eu avec les femmes de Nanine Jasmin, sur le travail invisible des femmes, en disant, Kouka nous disant, effectivement, moi, en arrivant en France, j'ai appris mes droits de femme, et donc le résultat est que j'ai mené un combat, que j'ai tenu tête à mon mari, et que j'ai osé divorcer, me séparer de lui, ce qui était impensable dans le cadre de ma culture traditionnelle. Mais après, on peut avoir le cas inverse, où notamment dans les ateliers sociolinguistiques, on n'évoque pas justement ce qui constitue le cadre d'intimité, disons des rapports familiaux, à proprement parler. Là, il y a une espèce d'hésitation à prendre la parole sur des questions qui touchent à l'intimité même des personnes, et qui font difficilement d'ailleurs l'objet d'une représentation culturelle. Sinon d'une représentation culturelle, allant de soi, traditionnelle, immuable, etc. etc. Sur la dénégation,
Enfin, là, c'est peut-être plus une forme de préservation, de précaution, voire de pudeur. Mais sur la dénégation, je pense qu'il peut y avoir aussi des résistances à s'avouer soi-même victime de discrimination, parce que peut-être que ça pourrait vouloir dire que on n'aura jamais la possibilité finalement soi-même de s'insérer dans un processus d'intégration. C'est-à-dire qu'on avoue soi-même que finalement on va avoir des difficultés à s'intégrer et qu'on se trouve dans une situation d'émargement. Donc si on se juge soi-même dans une situation d'émargement, effectivement, vis-à-vis de ses interlocuteurs, on apparaît comme quelqu'un d'émergé, donc quelqu'un qui n'est plus intégrable et qui ne serait plus citoyen français de plein droit, etc. Ou s'il l'était déjà, ou s'il postulait à l'être. Donc je pense qu'il y a aussi par là la volonté de montrer qu'on n'est pas la victime de ses origines, qu'on veut dépasser ses origines, voire qu'on veut éventuellement renier ses origines. On peut avoir toutes sortes d'interprétations par rapport à ce phénomène de dénégation, de discrimination. Quand un jeune homme qu'on avait rencontré, notamment dans le cadre de l'antenne de solidarité, de la rue de la solidarité, lui, effectivement, nous disait que... Là, c'était une parole d'un adolescent, hein, d'un adolescent de là, qui nous disait « Non, 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 les discriminations, curieusement, c'est pas le problème. Il y a pas, je me sens pas là spécialement victime de discrimination. Est-ce qu'il y a une dénégation de sa part ? C'est probable. Sauf qu'il arguait simplement que la question pour lui essentielle était l'inégalité de l'accès à l'emploi, mais une inégalité d'accès, finalement, qui traverse, disons, les catégories... français de souche ou primo-arrivants ou français issus de l'immigration, qui serait une sorte de situation, disons, de mal-être généralisé par la crise quoi, financière et ses consécutions. Donc, voilà. Donc il faut, je pense, être toujours... il y a ce qui est bien évidemment dit par les gens qu'on interviewe lorsqu'on les pose des questions, mais ça ne suffit pas toujours à comprendre les réalités de ce qui leur arrive, parce que tout individu qui est, se trouve dans une situation, disons, de délicatesse, avec des problèmes de reconnaissance, des problèmes, disons, de racisme, dont il se sent l'objet, va aussi produire certainement des discours écrans qui sont autant d'armes symboliques pour s'en prémunir d'une manière forte, hein, étant eux-mêmes dans des situations de fragilité par rapport à ce qu'ils vivent. Donc on a aussi des systèmes de défense du moi qui peuvent expliquer des dénégations probables comme celle-là, quoi.
Oui, complètement. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait un peu Didier Fassin dans donc cet ouvrage... de la question sociale à la question raciale. Il disait que finalement, les phénomènes de déni ou de dénégation les plus forts, ils se retrouvaient du côté des victimes ou des victimes potentielles, dans le sens où reconnaître la discrimination, c'est finalement avouer qu'on ne peut pas être reconnu parce qu'on est porteur d'une assignation sociale, enfin en l'occurrence dans ce qui nous intéresse, les publics qu'on rencontre, donc les femmes immigrées ou issues de l'immigration, et qui s'avère être indépassable. C'est-à-dire grosso modo, la société ou les groupes sociaux nous voient comme femmes immigrées, et en même temps, c'est pour ça, intrinsèquement, qu'on est discriminé. Donc il y a une forme de chemin sans issue dans lequel nous pousse cette reconnaissance de discrimination. Lui, il fait ce constat-là dans sa démarche de sociologue, c'est-à-dire que finalement, c'est vraiment du côté des publics discriminés que les phénomènes de déni ou de dénégation sont les plus forts.
Après, je pense qu'il y a aussi un autre phénomène qui peut être... C'est toujours très délicat parce que il faut lutter légitimement contre les discriminations qui existent, qui sont réelles. En même temps, on sait que à un moment donné, faire émerger un phénomène et le faire prévaloir
comme un phénomène social, disons, qui incrusterait l'ensemble de la société. Bah, mettre une focale sur ce phénomène, ça a toujours des effets de démultiplication. On l'a bien vu notamment il y a quelques années avec les politiques sécuritaires. C'est-à-dire qu'on donne un éclairage sur un aspect de la réalité, et parce que cet éclairage est donné sur une portion de la réalité, il y a des effets de contamination qui semblent nous murmurer que finalement le problème qu'on a diagnostiqué est un problème dominant qui nous envahit, qui envahit notre quotidien. Je pense par exemple à l'invention d'une pathologie sociale susceptible d'être éprouvée par la loi, comme l'occupation abusive des classes d'escalier, effectivement, qui fait qu'on a pu, la politique sécuritaire de l'époque a pu créer au succès, parce qu'on a verbalisé 2 millions de procès-verbal pour occupation abusive de cages d'escalier, sachant que pour beaucoup de populations qui ne sont pas directement d'origine française, français de souche, la vie sociale se déroulant dans la rue, on rendait finalement, c'est pas qu'on criminalisait, mais on rendait en quelque sorte délictueux une forme de socialité très courante dans d'autres pays. Et donc là, du fait, on a fait d'un phénomène social généralisé un épiphénomène qui irritait peut-être certaines catégories de gens qui n'aiment pas entendre des voix dans la rue au-delà de 9h du soir, peut-être. Mais et je pense qu'avec la discrimination, c'est pour ça que c'est un concept toujours à manipuler avec précaution. Je pense que les institutions qui ont en charge la lutte contre la discrimination devraient aussi à la fois produire le discours de diagnostiquer les discriminations avec l'inventaire que l'on connaît des discriminations, quand même en extension, puisque ça va aussi jusqu'à la surcharge pondérale et bien d'autres aspects, mais en même temps aussi produire les contre-discours et les contrepoisons nécessaires pour pas faire en sorte que la discrimination elle-même devienne stigmatisante. Et ça, c'est toujours le paradoxe.
Oui, mais justement, ouais. Je trouve que ton exemple de la sécurité, donc, qui est relevé comme problème social patent dans les années 90 et qui contamine tous les secteurs de l'action publique et s'installe finalement sur des problématiques assez dérisoires qu'on fixe dans la loi de manière un peu folle et comme dans une fuite en avant, c'est assez intéressant parce que finalement, la question que, à mon sens, pose Didier Fassin, c'est est-ce que, avec les discriminations, on n'est pas dans quelque chose de tout à fait inverse ? Est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène où, oui, tout d'un coup, dans les années 90, à la fin des années 90, on reconnaît qu'effectivement, en France, il y a des discriminations de tout ordre, etc., raciales, liées à l'origine, la couleur de peau, des discriminations hommes-femmes, tout d'un coup, les critères de discrimination sont institutionnalisés, enfin, le débat sous toutes ses formes a le droit de citer dans l'espace public, mais quasiment immédiatement, on refuse finalement de revendiquer que ça soit une législation ou tout simplement le fait de dire « Eh ben oui, moi, j'ai subi dans ma vie plusieurs discriminations à tel ou tel moment, pour telle ou telle raison », en presque faisant culpabiliser les gens qui se saisiraient de ces nouveaux outils, et notamment dans l'espace public, en disant « Ben voilà, finalement... justement, on a parlé de discrimination, on a ouvert la porte à la victimisation. » Tu comprends finalement le point assez subtil que soulève Fassin.
Oui.
C'est de dire, et c'est là finalement que selon lui, on serait passé du déni, c'est-à-dire refus total d'accéder à l'espace public ou même d'en parler ou de le reconnaître comme phénomène, à la dénégation plus subtile. On le reconnaît comme phénomène, mais on dit tout de suite « mais ». Où on dit « mais attention ». Mais oui, il y a de la discrimination, mais bon, c'est pour telle ou telle raison. Oui, il y a de la discrimination, mais là, le revendiquer comme ça, c'est se poser en tant que victime, c'est pas lutter contre la discrimination. Est-ce qu'il n'y a pas, en plus, du fait que c'est difficile pour les gens qui sont victimes de discrimination, et notamment de discrimination donc à la fois ethnique, raciale, liée à l'origine, et du fait d'être femme, d'en parler, parce qu'il y a des assignations sociales très fortes hein, à certains idéotypes sociaux. Est-ce que voilà, on ne provoque pas aussi, par un double discours, donc non plus le déni, mais la dénégation?
Ainsi se termine cette émission des Périphériques vous parle, dans le cadre d'un cycle consacré aux discriminations touchant les femmes issues de l'immigration et l'égalité homme-femme. Nous nous retrouvons jeudi prochain pour une nouvelle émission. A très bientôt et restez à l'écoute. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 Bande FM.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of eight-year-old Ilhan Gonzalez to his father.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
To be a man, to be a human being, to be